Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chaque invité depuis chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, marché du livre, tout changer pour ne pas sombrer. Depuis deux semaines maintenant, les quotidiens et plus particulièrement Le Monde accueillent des tribunes de libraires, d'éditeurs, d'auteurs, d'auteurs et d'éditeurs, de libraires et d'auteurs, de libraires et d'éditeurs. Ils et elles interpellent le président de la République ou le ministre de la Culture pour sauver, je cite, la chaîne du livre. Une chaîne tendue à l'excès par deux mois de confinement, un confinement vécu comme une catastrophe pour nombre de ses maillons, mais qui fut également l'occasion pour beaucoup de voir dans la lumière crue du printemps ces dysfonctionnements. Ils étaient déjà là, mais ils ont été rendus encore plus évidents par la crise. Pour aborder cette situation difficile, voire dramatique, nous avons réuni trois acteurs de ce système du livre, le directeur du Centre National du Livre, une éditrice et un grand libraire indépendant, tout en sachant que ce secteur rassemble, et nous ne les oublions pas, auteurs, traducteurs, correcteurs, imprimeurs, attachés de presse, distributeurs et bien d'autres métiers qui tous et toutes sont également intéressés à ce que cette chaîne ne se brise pas. Avec nous, Denis Mola. Bonsoir, Denis Mola.
Bonsoir.
Vous êtes donc libraire indépendant à Bordeaux, la plus grande librairie indépendante de France. Avec nous également, Chloé Pathé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice et directrice de la maison d'édition Anamosa. Et avec nous, Vincent Monadet, vous êtes le président du Centre National du Livre. Bonsoir.
Bonsoir, Emmanuel.
Je vais commencer par vous, Vincent Monadet. Votre téléphone doit sonner à peu près tous les quarts d'heure. C'est gentil de nous consacrer trois quarts d'heure, voire une heure de discussion depuis que vous écoutez le journal de France Culture. Ça doit être assez difficile quand on est président du Centre National du Livre de répondre à toutes les sollicitations que j'ai mentionnées de tous ces métiers qui cherchent à survivre dans cette chaîne du livre.
Bah écoutez, la profession, elle a été arrêtée net, comme tout le monde d'ailleurs, en mars, hein. Avec une perte de chiffre d'affaires pour les libraires en avril qui a été de 100%, une perte pour les éditeurs qui est entre 70 et 80-90%. Donc oui, la situation est assez grave. On estime que la perte à la fin de l'année, ce sera une vingtaine de pourcents, voire 25% du chiffre d'affaires, si tout va bien, si on n'est pas amené à reconfiner, si les fêtes de Noël se passent bien, enfin les achats de Noël. Et pour répondre à tout le monde, nous, on a mis en place un fonds d'urgence doté d'une première enveloppe de 5 millions d'euros. Et puis, il va y avoir très probablement un plan de relance dont on espère qu'il sera annoncé jeudi ou vendredi pour l'ensemble de la filière.
Vous comprenez pourquoi tous ces métiers postent des tribunes, des appels dans l'Humanité, dans Le Monde, etc., en disant au président de la République « ne nous oubliez pas » ?
Bien sûr, c'est normal, mais vous savez, c'est aussi tous les métiers de la culture qui ont pris cher, comme on dit, voilà, et qui ont besoin de rappeler leur existence. Après, personne ne les a oubliés et à aucun moment. CNL a mis en place dès début avril son fonds d'urgence à la demande du ministre Franck Riester. Et nous avons eu des échanges avec l'Élysée, avec Matignon, pour travailler à un plan de relance pour la filière. Donc ils ne sont pas oubliés, simplement les choses prennent du temps et il va y avoir des arbitrages manifestement budgétaires au gouvernement à faire.
Alors Denis Mola, comment ça s'est passé pour vous justement dans votre métier de libraire? Je dis donc Mola, c'est la plus grande librairie indépendante de France, vous avez 110 employés, je crois que vous réunissez 180 000 titres dans votre librairie à Bordeaux.
Exactement.
Donc ça a signifié quoi pour vous cet arrêt?
Un arrêt brutal. D'abord, on a pensé pouvoir compenser par la vente par Internet, mais il y avait quand même un gros problème logistique avec la Poste qui assumait pas la livraison des ouvrages. Donc, finalement, on a dû se résoudre à fermer la librairie. La librairie physique, ça c'était absolument obligatoire, mais on pensait à une alternative. Finalement, on a quand même gardé sur les 110 personnes un groupe de 7 personnes avec la communication et les cadres dirigeants pour imaginer un petit peu l'après et s'organiser très en amont. Mais il fallait que nous soyons quand même vigilants, parce qu'on a parlé du livre quand même, de livres de premier, produits de première nécessité, mais il y avait quand même un problème épidémiologique majeur. C'est sûr que les métiers de l'alimentaire devaient se poursuivre. livre, mais il y avait quand même ce problème majeur pour le livre. Il fallait quand même qu'on observe quand même quelques règles élémentaires
de sécurité. Ça n'a pas été si simple, ça a été tendu dans le milieu de la librairie. Tous les libraires n'étaient pas d'accord avec cette position que vous tenez, Denis Mola.
Tout à fait, il y a ceux qui étaient partisans, disant c'est vraiment un produit de première nécessité, il faut absolument rouvrir. Mais on sait très bien qu'en termes épidémiologiques, lorsqu'on augmente un groupe, etc., on a des risques qui augmentent. Et alors là, c'est de manière exponentielle et on serait arrivé, voilà. Donc, il fallait se préparer un petit peu pour l'après, chose que nous avons essayé de faire. Et dans un premier temps, début mai, le 4 mai, réouvert notre click et collect avec, en réouvrant notre site internet. Et là, la poste a assuré parfaitement les livraisons. Et le 11, nous avons rouvert avec des conditions drastiques de sécurité, de nombre de personnes, installant des plexiglas, mettant des distributeurs de gel hydroalcoolique. Et ça s'est plutôt bien passé. On a vu des gens qui étaient heureux de retrouver les livres. Parce que notre souhait, ça serait d'avoir des librairies qui fonctionnent comme avant, mais c'est pas le cas. Donc il faut trouver d'autres moyens de vendre les livres, de les faire connaître, de les faire savoir. Donc avoir de plus en plus recours un peu au monde des réseaux sociaux et de la communication un peu numérique.
Vous avez déjà commencé en faisant interviews d'auteurs en particulier qui sont présentes sur les réseaux sociaux et sur le net. On y reviendra peut-être avec vous tout à l'heure. Chloé Pathé, vous êtes donc fondatrice et directrice des éditions Anamosa, une petite maison d'édition qui existe depuis combien de temps maintenant?
4 ans.
Voilà. 4 ans. Donc évidemment, quand on est en pleine ascension, on tente d'essayer de vivre et que arrive la crise de la Covid, c'est assez difficile. Vous avez été à l'origine avec d'autres petits éditeurs indépendants, un collectif d'éditeurs indépendants, d'un texte collectif publié justement dans l'Humain. C'était le 29 avril dernier. Nous sommes en crise. Vous disiez qu'il y avait presque 82 000 professionnels dans la filière du livre et que, ce moment était un moment qui permettait de réfléchir, que les questionnements n'étaient pas neufs, disiez-vous, les questionnements qui étaient mis en évidence par la crise de la Covid, mais que justement cet arrêt brutal du marché du livre permettait d'y réfléchir.
Oui, tout à fait. Puis je voudrais citer mes camarades co-rédacteurs de cette tribune, tribune qui a rassemblé plus de 450 signataires, éditeurs, mais aussi professionnels indépendants du livre, comme vous citiez tous ces métiers qui composent la vaste filière. Donc il y a Valérie Millet des Éditions du Sonneur, Jean-Luc Daciano de L'Œil d'Or, Julien Delorme de La Peuplade, Charles-Henri Lavielle d'Anacarsis, Dominique Tourte d'Invenit et Benoît Véry de La Contre-Allée. En effet, peut-être que ce que la crise aura eu de positif, c'est d'enfin s'arrêter et de poser les problèmes et d'y réfléchir. Pour rebondir, je vais détourner une phrase d'un de nos auteurs, Samuel Hayat, qui avait dit « La démocratie est affaire autant de société que d'État ». Et je crois que c'est pareil, le livre est affaire autant de société que d'État, à savoir que le livre est quand même un produit de...
Ah, malheureusement. Attendez, nous avons un problème de liaison avec vous. Attendez, on va essayer de... vous étiez arrêté à la phrase de Samuel Hayat. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est donc un problème autant de société que d'État, Chloé Pathé, et donc...
Et donc, c'est ce qu'il en est à la fois de la démocratie et du livre, qui a un rôle social à jouer en tant que produit de diffusion du savoir. Et en fait, notre filière, là, qui s'est arrêtée, elle est aussi un reflet de la société, avec des problématiques qui lui sont propres, mais partagées par d'autres secteurs et par les citoyens. La question de la surproduction, de l'aspiration à une consommation qui soit plus locale, plus territorialisée, l'aspiration aussi à un temps qui se déploie, la nécessité de faire de l'écologie non pas un impensé, mais quelque chose de prégnant dans nos sociétés, et l'écologie centrale, en termes à la fois sociaux et environnementaux, sociaux, la juste rémunération des acteurs, et environnementaux, c'est vrai que notre filière a beaucoup à réfléchir aussi dans ces mécanismes, et autant que d'État, en effet, la France et Vincent Monnadet en est le digne représentant, a une politique du livre qui est déjà forte, qui passe par des soutiens tant publics que territoriaux, mais je pense pense qu'il est temps aussi de renforcer cette politique et de s'appuyer, enfin de refaire du livre justement un projet de société et de remettre le livre au centre en s'appuyant sur déjà la loi langue que nous avons.
Oui, alors justement, Vincent Monadet, on va fêter, célébrer la 40 ans de la loi langue, ça sera donc l'année prochaine en l'occurrence, mais ce que dit Chloé Pathé, c'est par exemple cette question de la surproduction, et on le retrouve un peu partout dans les textes qui ont été publiés. Trop de livres, trop de publications chaque mois, 250 livres par jour, disent certaines de ces tribunes. Tout compte fait, ce n'est pas nouveau cela, parce qu'on sait ce qu'il en était du système de l'Office, donc de cette arrivée massive des livres chez les libraires, chaque jour, de ce travail de déménageurs que doivent faire beaucoup de libraires pour pouvoir trouver de la place dans leur librairie, pour faire rentrer tous ces livres qui arrivent. Tout cela, c'est quelque chose qui existait avant, surproduction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme, Vincent Monadet ?
Oui. Il y a de toute façon, oui, une surproduction. Ça a d'ailleurs été dit et assumé par le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne, l'année dernière, au mois de janvier. Après, il faut faire attention. Nous sommes un marché de l'offre. Nous ne sommes pas un marché de la demande. Donc il faut veiller à conserver une diversité éditoriale et une diversité des esthétiques qui soit large pour que le public s'y retrouve. Le public n'attend pas le livre de tel ou tel auteur, sauf les très connus. Le public fouine, cherche et trouve. Et ça, il faut le garder. Donc il y a probablement une crise de la surproduction, on le sait depuis longtemps, hein. On a un accroissement du nombre de titres parus qui est vérifiable et qui ne nous garantit pas pour autant une croissance de la valeur, c'est ça le problème. Mmh. Si tous ces titres nous rapportaient de l'argent, ce serait très bien. Autrefois, on pouvait estimer que 4 livres sur 10 rapportent de l'argent, ce qui permettait de financer les 6 livres qui n'en rapportaient pas. Aujourd'hui, on est plutôt entre 1 et 2 livres sur 10 qui rapportent de l'argent. Donc, est-ce qu'il est utile de faire tous ces livres ? Non, c'est pas certain. Et en même temps, il faut veiller à conserver à la fois la diversité éditoriale et la diversité des esthétiques, que ce soit poésie, BD, théâtre, roman, avec des segments qui peinent vraiment à trouver leur public et qui pourtant sont très riches, comme la poésie, par exemple. La poésie est un art majeur, c'est un art en pleine construction en ce moment en France, avec des éditeurs très importants, et il n'y a pas ou peu de ventes. Donc il faut pouvoir maintenir malgré tout cette production-là, elle est capitale.
Et une des autres questions que posait Chloé Pathé, c'est la question de la rémunération des auteurs. On sait combien, juste avant la crise de la Covid, il y a eu le rapport Racine qui a, disons, provoqué des réactions très vives de certains libraires, de certains éditeurs comme Antoine Gallimard qui disait « Nous ne nous résignerons pas à une société qui choisit de publier moins pour lire moins » parce qu'il y avait dans ce rapport Racine cette idée du contrat de commande et d'une certaine façon, d'une rémunération meilleure des auteurs. Ça, c'est une autre question, effectivement.
La situation des auteurs est préoccupante. Elle l'était avant le Covid et elle va l'être encore plus maintenant puisqu'il y a des pertes très nettes, à la fois des avaloirs qui ne seront pas signés, des livres qui devaient se vendre qui ne se sont pas vendus, et des rencontres en droits accessoires, des rencontres à l'éducation nationale ou dans les festivals qui ne se sont pas faites. Après, moi, je pense que de la place d'où je suis, hein, qui est une place d'institution...
Président du CNL, du Centre National du Livre.
Il y a deux questions. Il y a la question qui est posée aux éditeurs, qui est celle de la rémunération des auteurs, qui doit passer par des rencontres interprofessionnelles, des discussions et des négociations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, il est celui du statut social et fiscal des auteurs, et là l'État doit balayer dans son jardin, parce que je pense que nous n'avons pas réussi à créer un statut social et fiscal des auteurs qui soit facilement accessible, facilement actionnable. Et là on l'a bien vu pendant cette crise, où les auteurs avaient droit au fonds, ce que j'appelle le fonds Lemaire, mais qui n'est pas le fonds Lemaire, le fonds de solidarité gouvernementale pour les indépendants. Or, il n'y avait pas de case d'artistes-auteurs dans les documents qui leur étaient fournis, parce qu'on ne les connaît pas, on ne les sait pas et on n'a rien créé pour eux. Et la question de créer quelque chose pour eux, spécifique, un statut spécifique sera central dans les années qui viennent.
Denis Molin, est-ce que vous ressentez cette question de la surproduction en tant que grand libraire indépendant à Bordeaux, ou est-ce que pour vous, justement, cette loi du marché, telle que le disait Vincent Monadet, cette loi de l'offre était nécessaire pour faire tourner une très grande librairie indépendante comme la vôtre à Bordeaux?
Ma vision, c'est que les éditeurs prennent des risques, les libraires prennent des risques en mettant les livres de l'office en place et en les faisant durer le plus longtemps possible. Donc c'est un peu une loi du marché, c'est comme ça. C'est d'ailleurs chaque fois à chaque rentrée littéraire, on dit, les éditeurs annoncent qu'il va y avoir moins de livres, mais il y a toujours autant, même voire un peu plus.
Mais ça peut se remettre en discussion. On peut dire c'est une loi du marché, mais on pourrait dire tout compte fait, ça n'est pas la bonne solution. Ou ça ne marche pas.
Tout à fait. Pour le moment, pour nous, c'est constaté en tant que libraire. On est au bout du système économique. Après, il y a le client qui est la personne ultime. C'est sûr que la diversité, c'est une prise de risque pour un éditeur d'éditer selon ses choix. Et en même temps, ça nous a valu, parce que le problème, comment faire des succès? On ne sait pas les faire. C'est le public qui choisit. Tout est imprévisible de ce côté-là.
Bien sûr. Non, mais par exemple, certains de vos collègues disaient, par exemple, les Allemands, ils annoncent leur programme d'édition un an à l'avance, et alors qu'effectivement, ça n'est pas du tout la rythmique des éditeurs français. Et donc, d'une certaine façon, on sait que la concurrence est là, mais qu'elle est, disons, prévisible. On peut déjà prévoir en tant que libraire, eh bien, tel ou tel ouvrage, et donc mettre en place ce que l'on veut, justement, pour pouvoir faire ses propres choix.
Tout à fait, oui, ça pourrait. Bon, peut-être donc on attend la réponse des éditeurs sur le sujet. Mais c'est pas dans nos habitudes habituelles. Les Américains, c'est exactement pareil. Ils ont une foire annuelle où ils font venir tous les clients libraires qui passent leurs commandes. Mais tout simplement, ils cumulent le nombre de livres commandés, ils ajoutent 20%, et tout simplement, ça permet de prévoir le tirage.
Mmh. Et par exemple, si on imagine ce que dit dans une tribune d'AOC, ce que disent Éric Dumas, Marie Audruau et Benoît Viron, ils disent par exemple, pourquoi pas imaginer un système de livres sans retour qui serait une sorte de pari pour que les libraires disent, eh bien écoutez, on fait le pari de garder ces livres et on les vendra sur une plus longue durée.
Oui, des livres sans retour, mais à ce moment-là, avec des conditions économiques, des conditions de remise un petit peu modifiées, c'est-à-dire avec plus de marge pour les libraires.
Toujours des questions d'argent et de répartition dans la chaîne de valeur, comme on dit, c'est
mais
ça.
Mais oui, l'économie du livre est une économie quand même très tendue, on le sait. Donc les librairies sont dans les commerces, les commerces qui ont la moins bonne rentabilité. Donc ouais. C'est un point très très important.
Chloé Pathé, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions et de ces discussions justement sur la meilleure répartition dans la chaîne de valeur entre chacun des acteurs du livre ?
Ben oui, je suis d'accord avec ce que dit Denis Molla. Le problème de si on décompose le prix d'un livre en fait, et chaque maillon est finalement tout est très serré. Donc les leviers.
Disons tout de même que ce sont les distributeurs qui sont quand même les plus avantagés dans cette chaîne du livre.
Alors, pas forcément en termes de pourcentage, mais en termes de chiffres qui rentrent réellement, puisque il s'agit de flux aller et de flux retour qui sont facturés quoi qu'il arrive. Sur la question de la surproduction, c'est aussi le flux de la nouveauté qui se fait au détriment du fond. Et je trouve qu'il y a eu justement la progressive réouverture, enfin mise en place du retrait ou du click and collect pour les librairies juste avant la fin du confinement donne des éléments qui sont intéressants, à savoir que les libraires ne vendaient que ce qu'ils avaient en stock, puisqu'ils ne pouvaient pas être approvisionnés en nouveautés ou en nouveaux livres. Et un certain nombre d'entre eux, enfin moi j'en ai eu plusieurs au téléphone, disaient que les gens allaient aussi vers ce qu'on leur proposait. Donc on peut aussi travailler le fond, là, je crois que c'est demain, sort un nouveau Guillaume Musso qui doit... qui va cartonner, mais ces derniers temps, c'est le fond qui circulait, donc c'est intéressant aussi, ça veut dire que... des choses sont possibles.
Oui, justement, sur ce point, Vincent Monadet, certains ont dit, eh bien, il pourrait y avoir un office, une de ces livraisons obligatoires aux libraires, c'est tous les 15 jours, autant que je me souvienne, donc un office qui serait consacré de temps en temps au fond des libraires, au fond des éditeurs, c'est-à-dire pas forcément de la nouveauté, mais pour permettre justement de faire vivre des fonds d'éditeurs qui, malheureusement, une fois passé ce temps de l'office qui est très court, eh bien, retournent chez les éditeurs et ont peu de chances d'être à nouveau offerts aux lecteurs potentiels.
Mais là, on vit sur un mythe qui ferait le poids de la nouveauté. On vendrait que de la nouveauté. Demandez à Denis quel est le pourcentage du fonds dans sa...
On a 180 000 titres, effectivement, c'est vrai. Oui, j'imagine.
Je peux vous donner le chiffre. 40% de chiffre d'affaires.
Attendez, Denis vous répond justement. Denis Mola.
40% c'est la nouveauté et 60% du chiffre d'affaires c'est le fond.
D'accord, très bien. Vincent Modanet, vous pouvez compter.
Le catalogue Gallimard, le catalogue Minuit, le catalogue Verdier, le catalogue Le Seuil, c'est des choses qui tournent de façon prégnante, de façon constante, je veux dire, pardon. Il n'y a pas d'opposition entre la nouveauté ne tue pas le fond. Ce qui peut tuer le fond, en effet, c'est de faire des choix, et ça, aussi bien Chloé que Denis le savent, de faire des choix au détriment du fond pour faire de la place à la nouveauté. Ça peut dans certains endroits, tuer la vente de fond. D'un autre côté, on voit que c'est les librairies qui font ces choix-là, en général, ne tiennent pas longtemps. On a des exemples, on a eu des exemples avec la chaîne Chapitre, par exemple, et sont amenés à disparaître à plus ou moins long terme.
Il faut expliquer aux auditeurs que la chaîne Chapitre, c'était donc une chaîne donc qui permettait en particulier...
85 librairies de mémoire...
Voilà. Qui s'étaient unies...
qui étaient même rachetées par un seul et unique actionnaire... et qui se sont effondrés parce que voilà, il y avait cette politique à la fois de centralisation des commandes et puis par ailleurs d'absence de travail sur les ouvrages de fond qui font que les clients s'en détournent au bout d'un moment.
On a quand même réussi pour l'instant à tenir à peu près 20 minutes sans citer un nom, c'est Amazon. Comment fait-on d'ailleurs pour ne pas citer Amazon dans une émission consacrée au marché du livre après la crise de la Covid, Vincent Monadet?
C'est devenu impossible. Amazon, ça doit représenter à peu près 12% du marché à lui tout seul.
Ouais.
C'est devenu impossible. C'est un acteur important et le problème n'est pas que ce soit un acteur important. Par exemple, la Fnac est un acteur très important. La Fnac est un acteur très important dont il faut...
Par ses magasins et par son site.
...défendre et soutenir et qui n'est pas un adversaire, enfin qui est un concurrent des libraires, mais pas un adversaire. Le problème d'Amazon... pas tellement qu'ils soient venus en concurrence, c'est qu'ils jouent avec une concurrence faussée et déloyale. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en termes de fiscalité, ils payent pas ou ils font tout pour échapper au paiement d'une fiscalité juste, ce qui n'est pas le cas du tout des libraires. En termes de qualité des emplois, il n'est absolument pas sur la qualité des emplois des libraires. Et par ailleurs, en termes de salaire, il n'est évidemment pas. Et pourtant, Dieu sait que les libraires ne payent pas leur personnel comme ils pourraient les payer s'ils avaient plus de marge et sont les premiers à le regretter parce que ce sont des personnels qualifiés, souvent avec des diplômes universitaires, etc., et qui gagnent très peu. Et Amazon paye ses salariés magasiniers encore en deçà, sur des contrats précaires, avec beaucoup de précarité, etc. Donc c'est pas le problème que ce soit un acteur de plus dans la chaîne de la vente du livre. Le problème, c'est que c'est pas un acteur, c'est un prédateur dans la chaîne de vente du livre, et nous n'en avions pas. Nous n'en avions pas parce que la Fnac n'est absolument pas un prédateur, parce que Cultura n'est absolument pas un prédateur, parce que les espaces culturels Leclerc ne sont absolument pas des prédateurs. Et là, nous avons affaire à quelqu'un qui veut jouer, mais veut jouer avec ses propres règles.
Mais on se souvient bien que s'il y a eu cette loi sur le prix unique du livre, qui s'appelle la loi Lang, c'était parce que un éditeur, en particulier Jérôme Lindon, avait lancé dès 1977 une offensive pour dire la Fnac pourrait être une menace pour nos métiers, en l'occurrence. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion, Denis Mola, qu'il y ait une même alerte, d'une certaine façon, vis-à-vis de l'arrivée sur ce marché très important, donc de ce grand prédateur, en tout cas je prend les termes de Vincent Monadet.
Oui. Surtout, Amazon s'appuie aussi sur des marketplaces, c'est-à-dire des libraires tiers qui expédie alors que les livres ont été commandés par le site Amazon. Et Amazon est rétribué par une commission. C'est ce qu'on a bien connu ces derniers temps, où ils n'expédiaient plus de livres, il y avait uniquement que le marketplace, qui représente globalement sur la totalité de leurs chiffres à peu près 60% de leur activité. Mmh. Alors ce qui est sûr aussi, on le voit bien à l'heure actuelle, même depuis le redémarrage de la librairie, notre site internet marche très bien. Une des grandes conditions aussi, parce qu'on va avoir une phase de transition qui va être quand même assez longue, c'est un énorme atout pour quelque chose qui pèse quand même sur notre économie, c'est les frais de port. Et la perspective qu'il puisse y avoir, comme pour la presse, vous savez, la commission paritaire, qui permet de bénéficier de tarifs postaux particuliers privilégiés pour le livre, serait une formidable aubaine pour nous libraires qui vendons par Internet.
Oui, voilà. Beaucoup demandent effectivement à ce qu'il y ait un prix unique de port, que, comme d'ailleurs quand on exporte des livres aux États-Unis, je crois que ça ne coûte que 3 € le port de ce livre, alors que ça coûte 4,60 € pour la France, nous a-t-on dit, enfin en tout cas c'est ce que j'ai lu dans la documentation. Chloé Pathé.
Oui, non, moi je voulais rebondir sur deux choses et Amazon aussi, la différence fondamentale en dehors de faire juste de la vente de livres, c'est qu'elle ne fait pas un métier de libraire. Un métier de libraire, c'est le conseil, c'est la prescription, c'est ce qui change tout. Donc en ça, peut-être qu'il y aurait des choses, si on renforçait la loi Langue pour définir ce qu'est une librairie, c'est une dimension qui me semble fondamentale.
Un peu comme on a fait lorsqu'il s'est agi de défendre la baguette française, par exemple, par rapport au pain de supermarché. C'était une sorte de label qui permettait de défendre un certain type de métier. Et en l'occurrence, ça n'a pas si mal fonctionné. Est-ce que ça serait la même chose pour la librairie? Malheureusement, Chloé Pathé, je crois qu'on vous a perdu. On va essayer de vous retrouver.
Peut-être qu'il...
Allez-y.
Là, ça va?
Oui, ça va. Je crois qu'on a un vrai problème.
Là, ça va, oui. Oui, je pense.
Je crois qu'on va essayer de vous reprendre au téléphone. Vincent Monadet, pendant qu'on essaye de reprendre Chloé Pathé et Denis Molin, nous écoutons un titre d'un auteur très connu, à savoir William Burroughs, Gentle Reader.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Gentle reader, we see God through our assholes in the flesh bulb of orgasm. Through these orifices, transmute your body. The way out is the way in. Now I, William Seward, will unlock my word hoard. My Viking heart fares over the great brown river, where motors putt, putt, putt in jungle twilight, and old trees float with huge snakes in the branches, and sad-eyed memers watch the shore. Across the Missouri field, the boy finds a pink arrowhead. Out along distant train whistles, comes back to me. Hungry as a street boy, don't know to peddle the ass God gave him. Gentle reader, the word will leap on you with leopard man iron claws. It will cut off fingers and toes like an opportunist land crab. It will hang you and catch your jism, that inscrutable dog. It will coil around your thighs like a bushmaster and inject a shot glass of rancid ectoplasm. I am not American Express.
Gentle Reader, un titre avec évidemment cette voix inimitable, celle de William Burroughs. Vous écoutez Le Temps du Débat. Aujourd'hui, nous posons une question qui est: marché du livre, tout changer pour ne pas sombrer, avec les difficultés que connaît ce marché du livre dans toute sa chaîne en l'occurrence, et qui ont été exposées dans de nombreuses tribunes de presse depuis maintenant une quinzaine de jours. Denis Molin, vos propres solutions justement pour sortir de cette crise que nous connaissons, ou que vous connaissez en l'occurrence en tant que grand grand libraire indépendant à Bordeaux. Quelles sont les solutions que vous imaginez? J'imagine qu'il y a à la fois des solutions purement commerciales, mais peut-être aussi d'innovation pour pouvoir sortir de cette crise.
D'abord, c'est un moral partagé de toute une équipe dans la librairie. Donc sur les 55 libraires, sur les 110 personnes, la proposition, l'offre, la mise en place de la librairie, le 11 mai, lorsque nous avons ouvert la librairie, nous avons refait toutes les vitrines. Donc c'était vraiment la réouverture, ça c'est le premier point.
C'est le printemps quoi, c'est comme une renaissance printemps, de printemps.
Tout à fait. Pas la perte de morale, surtout. Surtout aussi bien veiller sur l'équilibre économique et le futur. Heureusement qu'il y a eu le chômage partiel, le fait de pouvoir le moduler en fonction des personnes qui pouvaient être là et qui devaient être là. Et puis, pour la suite, c'est, comme je vous disais, heureusement pour les libraires qui peuvent vendre sur Internet, c'est un afflux énorme de commandes qui permet de compenser quand même une baisse de chiffre d'affaires qui est surtout marquée le samedi. Le samedi, les gens sont beaucoup plus prudents pour venir dans les centres-villes. Les autres jours de la semaine sont quand même, la tendance est un petit peu un chiffre d'affaires inférieur, mais quand même on n'est pas très loin des chiffres de l'année précédente. Donc c'est aussi construire l'arrivée des offices et puis parler des auteurs et des livres qui paraissent.
Vincent Monadet, dans une tribune très vive, c'est le moins qu'on puisse dire, l'autrice qui est Louise Chenevière sur le site Lundi Matin, hier a écrit « La littérature est morte, vive la littérature » et elle s'est étonnée que des auteurs, des libraires, d'autres personnes s'adressent carrément au président de la République en disant « nous ne voulons pas nous adresser au président de la République parce que c'est supplier le roi de leur porter secours ». C'est vrai que c'est étrange, effectivement, dans ce milieu de créateurs, d'écrivains, d'artistes et d'auteurs, que ça soit directement au président de la République qu'on s'adresse pour pouvoir faire justement sauver le secteur.
Écoutez, j'ai lu la tribune de Louis Chenevière. Moi, j'ai tendance à... Peut-être parce que je suis un vieil homme du compromis, j'ai tendance à penser que tout ce qui est excessif perd du sens.
En fait, c'est excessif dans un certain sens, mais en tout cas, c'est assez vif.
Il y a un fond dans ce qu'elle dit qui m'intéresse beaucoup, qui est la place d'une littérature exigeante, difficile d'accès, à très peu de débouchés commerciaux, voilà. Après, moi, je suis en charge, en partie, en tous les cas, pour partie du soutien à une chaîne économique dans laquelle il y a 80 000 emplois. Donc j'adore qu'elle ne veuille pas d'aide, mais il y a derrière 80 000 personnes qui doivent manger avec cette chaîne, et ce serait bien qu'ils continuent à manger en fait, et ça serait bien que la position depuis l'Aventin n'oublie pas que cette chaîne économique est fondamentale, elle est importante, et qu'il y a besoin absolument d'aider au redémarrage avec à la fois des soutiens en prêt et des soutiens en subvention et un soutien aux auteurs qui eux encore une fois, sont déjà dans la difficulté et dans une précarité qui est inquiétante.
Oui, elle dit tout de même qu'il y a bien sûr des éditeurs, des libraires acharnés qui refusent d'abdiquer, qui s'efforcent de défendre des textes impossibles à vendre, des textes fous sans retour sur investissement, sans profit. Nous avons besoin d'eux et ils sont de plus en plus menacés, dit-elle. Chloé Pathé, qu'est-ce que vous pensez de cette position? Vous l'avez peut-être lu aussi, le texte de Louise Chenevière dans Lundi Matin.
Non, alors je l'ai pas lu. Je pense qu'il y aura en effet des gens en grand danger et en effet il faut veiller à protéger tout le monde et pas, enfin en dehors il y a les auteurs
et à refuser dit-elle
les auteurs, les structures que sont liées.
Et a refusé, dit-elle, de s'adresser au président de la République, qui à ses yeux, j'imagine, doit être illégitime, parce que ça n'est pas comme cela qu'un auteur doit se comporter dans la situation dans laquelle on est. Enfin, c'est ce que j'interprète, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir, après avoir lu ce texte, que c'est ce qu'elle dit. C'est étrange de demander au président.
Je pense quand même que... Oui, mais l'État, je pense, comme le disait Vincent Monadet, a un rôle à jouer. Enfin, la politique culturelle a toujours été très importante en France. La politique du livre, en particulier. Enfin, c'est le C'est le pays justement du droit d'auteur, du prix unique du livre. On a quand même été pionniers, donc c'est fondamental aussi de rappeler à l'État qu'il a aussi un rôle à jouer. Et en dehors, oui, des structures et des auteurs, enfin, je rappelle aussi tous les autres auto-entrepreneurs et les indépendants du secteur du livre,
qui sont nombreux,
dont certains, alors peut-être ne pourront pas bénéficier, ou qui sont très nombreux, qui travaillent aussi bien pour les petites structures indépendantes que pour les grosses structures, qui sont liées aussi à des festivals, à tout ce qui nous manque encore, le contact physique et humain qui compte pour beaucoup dans la circulation des textes avec les lecteurs, que eux aussi soit pris en compte dans les plans de relance. Enfin, ceux qui ne travaillent que dans la filière livre, c'est important d'en tenir compte.
Mais comment justement maintenir cette diversité les... Comment maintenir cette diversité que vous appelez de vos voeux en tant qu'éditrice chez Anna Moza, et dont on dit effectivement, que vous disiez en même temps, qu'il y avait une surproduction, mais en même temps, comment choisir? C'est ce que disait Vincent Monnadet tout à l'heure. Choisir dans cette surproduction, ça veut dire déjà trier, alors que il faut garder le maximum de diversité de production.
Ah ben oui, c'est évident. Puis après tout, une maison comme Anna Moza n'existait pas il y a 4 ans, donc peut-être participe-t-elle de la surproduction. Enfin, si on va au bout, de toute façon, le métier d'un éditeur, c'est de trier, c'est de faire des choix, c'est de dire.
Et c'est aussi le métier d'un libraire.
Plus souvent que oui, voilà.
Denis Molin, puisque nous avons encore un problème de liaison avec Chloé Pathé, Denis Molin, c'est aussi cette question du choix. Alors, je sais que avec toute l'offre que vous avez, tous les libraires ne peuvent pas avoir autant de titres que vous et être une aussi grande librairie. Il y a évidemment beaucoup de libraires qui sont des petits libraires qui vont se retrouver bien en difficulté à la rentrée prochaine en particulier.
Ça va être un petit peu compliqué, le réamorçage. C'est vrai que le problème du choix, d'abord, le libraire ne doit pas être un censeur, mais après, en fonction un petit peu de la configuration de sa librairie, il a une manière de la mettre en scène, de faire des choix, etc. Nous, pour notre part, nos libraires adorent mettre des petits papiers avec un petit peu commenter leur lecture, mais on essaie d'avoir tous les livres. Nous, on reçoit à peu près tout de l'office. Mais le futur et la rentrée va dépendre aussi un petit peu des conditions sanitaires qui sont en train d'évoluer et
toujours
voir où on en sera. Voilà, et surtout les fêtes de Noël. Il ne faut pas oublier que un mois de décembre, c'est un chiffre d'affaires qui est plus que doublé dans une librairie. Et qu'au niveau du chiffre d'affaires, pour les librairies qui font aussi un peu de scolaire, les deux tiers du chiffre se font pendant le tiers du temps, c'est-à-dire de septembre à décembre.
Et donc, vous pensez, par exemple, qu'on pourrait rattraper une très mauvaise année comme celle-ci dans les derniers mois de cette année, justement, pour permettre à certains libraires, en tout cas, il faut qu'ils tiennent jusqu'à ce moment-là.
Rattraper, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, on peut pas, mais en fonction des aides qu'il y a eu auparavant, c'est-à-dire le chômage partiel, les subventions dont parlait Vincent Monnadet, etc. Et puis il va y avoir aussi les PGE, les plans garantis par l'État, qui sont repris par les banquiers et garantis par l'État, qui vont pour être pour nous libraires un soutien très très important. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas se miner le moral, on essaie d'avoir un petit peu le sens du réel, mais de l'urgence du sujet. Mais déjà, on envisage certaines perspectives. On a une vision un peu positive de l'avenir.
Oui, on le voit effectivement que vous n'êtes pas parmi les plus inquiets, en tout cas dans cette chaîne du livre. Vincent Monnadet, vous avez déjà dit au début de cette émission ce que vous aviez fait en tant que président du CNL, ce que comptait faire donc le CNL dans les semaines à venir. Tout dépend maintenant peut-être du plan qui va être annoncé par le ministre de la Culture.
Oui, on attend le plan de relance que Franck Riester devrait proposer normalement en fin de semaine pour savoir ce qui va se passer. Et puis, tout à l'heure, vous évoquiez la loi Langue. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de pistes plus durables là qui doivent être creusées, comme la question du rabais de 9% consenti aux collectivités, qui m'a toujours, pour ma part, surpris et que je ne comprends pas pour les achats en bibliothèque. Je considère qu'il faudrait reposer cette question. La remise de 5% aux clients, je considère aussi qu'il faudrait reposer cette question pour que le prix...
Il y a déjà des libraires qui ont commencé à le faire, de reposer la question.
Il y a déjà des libraires qui ont effectivement...
Sans même attendre un changement de la loi, en l'occurrence.
Qui ont effectivement renoncé à la carte de fidélité. Et puis, dernier point qui reste un de mes chevaux de bataille, même si j'ai parfois l'impression de prêcher dans le désert, la question du livre d'occasion et de la taxe qu'il faudrait y appliquer pour qu'elle serve à la fois aux auteurs et aux éditeurs, dont les droits sont spoliés au moment de la revente d'un livre en occasion.
Voilà, mais néanmoins, on peut dire que ce sont des aménagements, mais ça n'est pas la révolution que certains, visiblement, attendent dans ce secteur du livre. Vous ne pensez pas, Vincent Bonnadet, qu'une révolution est purement nécessaire, justement, pour tout changer, peut-être, de ce qui a été mis en place patiemment depuis plusieurs décennies?
Manuel, j'ai lu comme vous Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà, je pense que ce mot de révolution ne me plaît pas, parce que je pense que tout n'est pas à jeter, loin s'en faut, et que la loi Langue est un pilier qu'il faut absolument conserver, qui a permis à notre chaîne du livre de trouver sa prospérité. Cependant, cette loi, elle a 40 ans, il y a des aménagements à y faire. Et puis surtout, il y a des négociations interprofessionnelles qui doivent s'ouvrir probablement entre auteurs et éditeurs, entre éditeurs et libraires. Et tout le monde en a envie, là. On sent bien qu'il y a cette envie, donc il faut battre le fer quand il est chaud. C'est la profession elle-même qui doit en grande partie s'autoréguler, à mon sens.
Chloé Pathé, ces états généraux, cette capacité justement peut-être à se réunir ensemble pour débattre de toutes ces questions, visiblement vous faites partie de ceux qui pensent qu'il est nécessaire de le faire.
Oui, alors je parlerai pas de révolution. Moi, je pense justement, qu'on a la loi Langue. Il s'agit de la renforcer. Au contraire, c'est un outil extrêmement, extrêmement précieux. Après, nous, ce qui nous importe justement, c'est de participer à ces échanges interprofessionnels, notamment en créant une organisation professionnelle qui représente davantage les éditeurs indépendants et les travailleurs indépendants du livre. Tout ça en lien avec l'interprofession, mais je pense qu'il y a quand même des leviers. Vincent Bonnadet les a cités. Il y a la question aussi de la remise minimale libraire demandée par le syndicat de la librairie française. Et le tarif postal, je ne sais pas si j'ai été coupée au moment, je pense qu'il y a un levier aussi pour les éditeurs. En fait.
Un tarif
et
postal qui soit proche du tarif de la presse, c'est cela?
Ben oui, que tout comme l'État a aidé la presse après la libération, je pense que c'est un levier important qui permettra aux libraires d'être concurrentiels par rapport à Amazon, qui permettra aux éditeurs de faire des économies, qui permettra aux lecteurs, et la Poste peut en sortir grandi avec une grande campagne « Lisez des livres, envoyez des livres ». Parce qu'aujourd'hui, on hésite à offrir un livre et à l'envoyer par la poste.
Merci beaucoup à vous, Chloé Pathé. Merci à vous, Denis Molin, d'avoir été avec nous. Et à Vincent Bonnadet, également président du Centre National du Livre, d'avoir réfléchi ensemble à cette question. Faut-il tout changer pour ne pas sombrer dans le marché du livre ? C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Manon Prisset. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang. À la réalisation, Olivier Bétard. Demain, le temps du débat s'intéressera à un tout autre secteur, lui aussi touché par cette question de la Covid, à savoir le sport et le spectacle du sport.